Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Ça fait depuis vendredi que je passe des coups de fil au laboratoire. Impossible d'avoir un rendez-vous pour faire le test. Et là, j'arrive ce matin, tout de suite, ils m'ont pris.
Bientôt la fin de la galère des tests Covid. En tout cas, 7 nouveaux centres de dépistage ouvrent en Île-de-France aujourd'hui. Double objectif, obtenir des rendez-vous plus vite et des résultats plus rapidement. On vous emmène dès le début de ce journal dans l'un de ces nouveaux établissements.
Vous entendrez également la colère de ces madrilènes qui ont reçu l'ordre de se confiner à nouveau. 800 000 personnes en banlieue de Madrid.
Deux ministres peuvent-elles faire plier le géant mondial Bridgestone? Les ministres du Travail, Elisabeth Borne, et de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, sont à Béthune aujourd'hui pour une réunion de crise et éviter la suppression de 863 emplois.
L'aviation, zéro émission à l'horizon. Airbus annonce donc son projet d'avion à hydrogène, plus respectueux de l'environnement. On va vous expliquer en quoi consiste ce virage stratégique.
Nathalie Roré devrait devenir la nouvelle directrice de l'École nationale de la magistrature, choisie par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Il s'agit d'une double première. Première femme à diriger cette école prestigieuse et première avocate à ce poste. On va vous expliquer pourquoi cette nomination est très loin d'être anodine.
Et puis à la fin de ce journal, hommage à l'acteur Michael Lonsdale. Il avait joué pour les plus grands réalisateurs Truffaut, Mocky, René. Il est mort à l'âge de 89 ans.
La bourse de Paris, elle termine ce soir en baisse de 3,74%, notamment en raison des craintes liées au Covid-19.
La tendance météo avec Anissa, une France coupée en deux demain.
Avec la Loire comme frontière et pour une fois, il vaudra mieux être au nord. Dans le sud, c'est encore très agité demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous l'avez peut-être constaté vous-même ou autour de vous. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de se faire tester au Covid-19. Laboratoire plein à craquer, file d'attente interminable et surtout des résultats qui tardent parfois. Voilà pourquoi l'ARS d'Île-de-France ouvre dès aujourd'hui 7 centres de dépistage et de diagnostic dans la région.
Victor Delande, vous avez visité l'un de ces nouveaux centres. Les objectifs sont clairs, des centres qui doivent permettre de faciliter l'accès aux tests, mais aussi d'obtenir des résultats plus rapidement pour les personnes privées.
Oui, c'était l'un des objectifs fixés par le ministre de la Santé, Olivier Véran, la semaine dernière. Ne surtout pas laisser les personnes avec des symptômes et les cas contacts pendant plusieurs jours sans résultat. Plusieurs jours pendant lesquels ils peuvent potentiellement contaminer d'autres personnes. Et depuis ce matin, donc, ce sont les patients qui ont des symptômes qui étaient invités à se présenter devant ce centre. Oscar, tous depuis vendredi, de la fièvre, des courbatures. Il n'a presque pas fait la queue pour être testé, il en était même surpris.
Très efficace, oui. Je suis assez étonné d'ailleurs.
Pourquoi, c'est vrai?
Ça fait depuis vendredi que je passe des coups de fil au laboratoire, que je vais les voir. Impossible d'avoir un rendez-vous pour faire le test. Et là, j'arrive ce matin en me disant « bon, je vais essayer ». Et puis tout de suite, ils m'ont pris.
Ouais. Pour bien s'assurer que des personnes ne mentent ou n'exagèrent leurs symptômes, des médecins remontent les files d'attente et posent toute une série de questions. Les résultats doivent arriver dans 48 heures, c'est encore trop, mais dans une dizaine de jours, ce sera 24 heures, comme l'affirme Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
Tout le sujet pour les labos, c'est de pouvoir prévoir les files de résultats qui arrivent sur leur plateforme et d'identifier ces tests prioritaires. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et je pense qu'on va en tout cas faire baisser significativement les délais avec une cible, mais une cible qui n'est pas à moyen terme, qui est à très court terme, de tenir ce délai de 24 heures.
Rappel important pour le grand public, l'accès aux tests dans ces nouveaux centres se fait exclusivement sur présentation d'un justificatif, une prescription médicale en cas de symptômes, un SMS de l'assurance maladie qui atteste bien que vous êtes cas contact, ou un justificatif de travail si vous êtes professionnel de santé.
Victor Dolande et 20 centres de ce genre doivent ouvrir d'ici 2 semaines en Île-de-France, une expérience qui pourrait aussi inspirer d'autres régions.
Et puis aujourd'hui, le préfet du Rhône annonce à son tour un serrage de vis. Les grands rassemblements seront désormais limités à 1000 personnes. Les visites, limitées également dans les EHPAD, et puis le port du masque obligatoire est étendu à 10 communes proches de Lyon.
Et on le sent, hein, ces mesures sont prises avec en toile de fond la menace d'une deuxième vague de potentiel reconfinement. Et de reconfinement, il est justement question en Espagne. Aujourd'hui, plus de 800 000 personnes qui habitent les banlieues et grandes banlieues de Madrid et qui doivent, dès aujourd'hui, se confiner à nouveau dans leur quartier.
Henri de Laguerry, vous êtes justement notre correspondant en Espagne. C'est un reconfinement qui provoque, disons-le, hein, la colère et le ressentiment, car il concerne essentiellement les quartiers populaires.
Oui, effectivement, et à l'entrée de Vallecas, l'un de ces quartiers reconfinés, la police contrôle les véhicules depuis ce matin. On ne peut plus sortir du quartier sauf pour aller travailler ou en cas de force majeure. Paco, retraité, vit du mauvais côté de l'avenue. Il n'a pas le droit de se promener en centre-ville, une injustice selon lui.
Après avoir été enfermé plus de 100 jours à la maison, ils sont en train de me dire que je ne peux pas aller dans le quartier en face. C'est quoi ce foutoir? Pourquoi ils ne me laissent pas passer?
Pour les habitants, ce reconfinement ciblé ne sert qu'à masquer la gestion défaillante du gouvernement régional. Beaucoup y voient une forme de stigmatisation. Nous ne sommes pas des lépreux, lance loin un passant à la police. De surcroît, pour Inès, étudiante, ces mesures sont inefficaces dans un quartier où le télétravail est impossible.
On confine le quartier du Sud, mais les personnes doivent aller travailler dans le métro, dans le train, dans les bus qui sont avec beaucoup de personnes. Et ça ne résout pas le problème. On ne met pas des mesures en place pour vraiment freiner le virus.
Les habitants réclament plus de personnel soignant, plus de tests, un meilleur traçage des cas contacts. Dans ces quartiers très denses, on enregistre autour de 1200 cas pour 100 000 habitants. C'est un record en Europe.
Henri de Laguéry en direct de Madrid. Deutsche Bank, ING, HSBC, de grandes banques internationales qui ont plongé en bourse aujourd'hui. Et la raison, la publication d'une vaste enquête d'un consortium de journalistes qui révèle de nombreuses activités suspectes et même des cas de blanchiment d'argent. On en parle tout à l'heure dans le journal de 19h.
Deux ministres peuvent-elles empêcher la suppression de 863 emplois? C'est en tout cas l'objectif d'Elisabeth Borne et d'Agnès Pannier-Runacher en charge respectivement du travail et de l'industrie.
Les deux ministres ont réuni élus locaux, syndicats, représentants du groupe japonais Bridgestone pour ce qu'on pourrait appeler une opération de sauvetage. Les négociations sont lancées. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, indique aussi que le gouvernement va mandater un cabinet de conseil pour contre-expertiser l'ensemble des scénarios qui ont été étudiés par Bridgestone avant la fermeture de l'usine.
Nous sommes convenus de faire dans deux à trois semaines, une réunion pour justement revoir les différents scénarios alternatifs à une fermeture de site. Parce que nous ne voulons pas tomber dans la fatalité et nous résoudre à, cette décision qui appelle certainement une contre-expertise. Et c'est tout ce qui nous anime aujourd'hui, c'est d'avoir des avancées importantes. C'est que les salariés de Bridgestone aient un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. On peut le faire de différentes manières, mais le premier scénario sur lequel nous voulons travailler, c'est avec Bridgestone.
Propos recueillis par Lionel Gougelot.
Et après les pneus aériens, si vous pouviez prendre l'avion sans vous soucier des conséquences écologiques, on le sait, alors que le monde fait face à une catastrophe environnementale, le secteur aérien doit relever un défi immense, maintenir son service, dont il est difficile de se passer, et en même temps respecter la planète.
Et la solution est peut-être proche. On ne vous parle pas ici d'un énième projet abstrait, on vous parle d'un avion à hydrogène, projet présenté par Airbus, un avion neutre en émissions et qui pourrait voir le jour, Aurélien Fleureau, dans 15 ans.
Oui, objectif 2035, Airbus veut devenir le premier constructeur à mettre en service un avion à hydrogène. Et pour ça, le groupe a présenté aujourd'hui trois concepts. Un turboréacteur pour les vols long courriers, capable de transporter jusqu'à 200 passagers. Il sera alimenté par une turbine à gaz modifiée qui fonctionne donc à l'hydrogène au lieu du kérosène. Deuxième concept, un turbopropulseur, plutôt court courrier jusqu'à 100 passagers. Et puis un concept d'aéronef dont le large fuselage permettrait de stocker suffisamment d'hydrogène. Airbus se donne encore 5 ans pour retrouver la meilleure technologie. Ensuite, il faudra trouver les fournisseurs, les sites industriels. Mais il restera quelques défis. D'abord, la production d'hydrogène vert, énergie issue d'énergie renouvelable et non plus d'énergie fossile. Et puis, il faudra adapter les infrastructures, notamment les aéroports habitués depuis des dizaines d'années à transporter du kérosène, rappelle Eric Schulz, spécialiste de l'aéronautique.
Quand vous allez sur les gros aéroports, Roissy par exemple, le kérosène arrive directement aux avions via des conduites souterraines. C'est toute une infrastructure qui demain matin sera complètement obsolète le jour où on voudra tourner la page et passer à l'hydrogène. Et cette infrastructure-là, elle demande des déploiements d'efforts énormes et des investissements massifs.
Et au total, Airbus va investir plusieurs dizaines de milliards d'euros sur ce programme zéro émission.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 est par ailleurs le directeur général d'Air France. KLM estime aujourd'hui que les aides des États français et néerlandais permettront de tenir au moins 12 mois. Air France qui a reçu pour rappel 7 milliards d'euros d'aide.
Oui, on va continuer à en parler de l'aérien à 18h20 avec notre invité ce soir, le vice-président d'Airbus, Jean-Brice Dumont. On a plein de questions évidemment à lui poser.
Europe Soir, le 18-20.
Julien Bugier.
18h11, la suite de votre journal avec Simon Rubin. Un geste qui ne va sans doute pas apaiser les tensions. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, s'était déjà mis à dos une partie de la magistrature ces derniers jours en demandant l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre de 3 magistrats du parquet national financier.
Et cette fois, il propose une avocate à la tête de l'ENM, l'École nationale de la magistrature. En l'occurrence, Nathalie Roré et Guillaume Bier. C'est une première à plus d'un titre.
Oui, première fois qu'une femme est proposée à ce poste, mais au-delà, c'est surtout la première fois qu'il ne s'agit pas d'une magistrate. Nathalie Roré est avocate, pénaliste, expérimentée comme Éric Dupond-Moretti. C'est l'actuelle vice-bâtonnière du barreau de Paris. Ce choix, c'est un symbole fort, une volonté d'ouverture, souligne le garde des Sceaux.
L'ouverture, c'est d'abord rompre avec des traditions surannées. C'est rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi. L'ouverture, c'est encore renforcer l'apprentissage chez les futurs magistrats d'une vraie culture du contradictoire. L'idée, c'est d'abord d'ouvrir cette école et de dépoussiérer un certain nombre de choses qui me semblent passéistes et qui aujourd'hui ne sont plus de mise.
Pour les magistrats, c'est un véritable tournant à venir, une annonce fraîchement accueillie par leur syndicat, déjà très remontée après l'enquête ouverte sur le parquet national financier. Même l'École nationale de la magistrature a réagi par un communiqué dans lequel elle souligne que les avocats sont déjà des partenaires de l'ENM et elle rejette entre les lignes les accusations d'entre-soi et de corporatisme. Et
Guillaume Bier du service police-justice.
Et puis la disparition d'un visage du cinéma et du théâtre. L'acteur Michael Lonsdale est décédé aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Il avait joué notamment au cinéma pour Truffaut, pour Jean-Pierre Mocky ou encore pour Alain Resnais.
Et vous avez peut-être en tête cette carrure assez massive, imposante, un peu voûtée, cheveux longs, barbe blanche. Et puis, Diane Chenouda, Michael Lonsdale, c'est aussi une voix. Et quelle voix ?
Ah oui, une voix chaude, vibrante, qui en disait long hein, sur sa sensibilité. On va l'entendre, cette voix de Michael Lonsdale, qui était aussi profondément croyant, au micro de Nico Saliegas. Il faisait le parallèle entre sa foi chrétienne et son métier d'acteur.
Beaucoup de nos plus grands acteurs étaient très croyants. Et oui, c'est un métier de don de soi et on Absolument. Est chargé de redonner vie, corps et voix et regard à un personnage.
Et il en a joué des personnages, plus de 200 rôles au cinéma. On se souvient de Michael Lonsdale comme le moine dans Le Nom de la Rose et surtout, bien sûr, de son interprétation bouleversante de Frère Luc dans Des Hommes et des Dieux, l'un des moines de Tibérine assassiné.
J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre.
Michael Lonsdale a tourné avec les plus grands, Orson Welles, vous l'avez dit, François Truffaut, Buñuel, Spielberg, avec Gérard Oury dans Le Crime ne paye pas. On le retrouve aussi bien dans les films d'auteur que dans les super-productions hollywoodiennes. Il joue le méchant dans Moonraker, un James Bond, et avait même fait une apparition dans Hibernatus aux côtés de Louis de Funès.
Ah, je m'en souviens pas de ça, mais c'était vraiment un super acteur. Hein.
Ah, oui, d'une humanité bouleversante.
On entendra d'ailleurs le témoignage de Lambert Wilson, qui a joué avec lui dans Des Hommes et des Dieux, témoignage poignant dans le journal de 19h. Merci Diane Chenouda.
J'arrive pas à croire qu'il avait 89 ans d'ailleurs.
Non, c'est vrai.
Merci mais écoutez, en tout cas voilà. Pour ce beau portrait et ce parcours. La tendance météo avec vous, Anissa. Alors demain, nous sommes officiellement en automne.
Oui.
Bah, là autre chose.
Bah si, sur le calendrier, Julien, demain, mardi 22 septembre, ça y est, nous sommes en automne, c'est l'équinoxe. Ça veut dire que demain, mardi, la durée de la nuit sera égale à la durée du jour. Bon, ça, c'était pour les révisions de primaire. Dans le ciel aussi, nous allons changer de temps et changer de saison demain.
Et puis dans 3 mois, c'est Noël.
C'est ça, dans 95 jours. Et pour les régions du sud, donc sur les régions qui se situent toutes au sud de la Loire, demain, le temps est encore agité. De la pluie pour tout le monde. Même sur le massif central, les Alpes et le Var, des orages en début de journée. Sur les Pyrénées et le Roussillon, là, le temps est sec. Et puis sur la moitié nord, beaucoup de brouillard demain matin, mais après la dissipation de ces nuages bas, il va faire très beau sur la moitié nord. Dans l'après-midi, toujours sur la moitié sud, nous aurons des orages qui vont se multiplier avec demain en Auvergne, sur le Poitou-Charente, sur les Pyrénées, sur les Alpes et la Côte d'Azur, des orages localement forts. Et puis sur la moitié nord, c'est toujours du beau temps. Hein. Sur les Hauts-de-France, la région parisienne et les Ardennes, profitez-en, c'est la dernière journée d'été. Alors les températures, elles commencent à baisser avant une chute très nette des températures pour jeudi. Ah, on va perdre 10 degrés, hein, presque.
Là, cette semaine.
Ouais, jeudi.
Alors demain, nous aurons 6 à 18 degrés demain matin. Et puis dans l'après-midi, ça va déjà bien baisser avec 17 à Aurillac, 20 à Brest, 22 à Bordeaux, 24 à Marseille et Lyon. On avait plus de 30 degrés il y a quelques jours. 26 pour Ajaccio, 27 à Paris. Et la maximale est prévue pour Metz avec 28 degrés.
Vous vous débrouillez, vous m'appelez Météo France et vous revenez avec des bonnes nouvelles tout à l'heure à 19h.
Ouais, je suis
merci,
pas sûr.
Merci Anissa.